La revue de presse sur France Inter. Bonjour Lionel Thompson.
Bonjour Nicolas. Bonjour à tous. Une photo de défense d'éléphants qui brûle comme d'étranges bûchers sous la surveillance d'un militaire africain orne aujourd'hui la une du Figaro. Après l'assassinat la semaine dernière d'un célèbre défenseur des éléphants en Tanzanie, le sud-africain Wayne Lotter, le Figaro consacre ce matin 2 pleines pages au trafic d'espèces menacées dans le monde. Un sujet qui n'a rien d'anodin puisque ces trafics rapportent entre 15 et 20 milliards de dollars par an à leurs auteurs et sont parmi les 5 plus rentables du monde, explique le Figaro, juste derrière les trafics d'armes, d'êtres humains, la contrefaçon ou la drogue. Des trafics lucratifs donc, qui sont loin de ne concerner que les emblématiques éléphants ou rhinocéros, tués pour leur ivoire ou leur corne, mais aussi des milliers d'autres espèces menacées, indique une responsable d'ONG américaine, jusqu'aux bestioles les plus innocentes, comme par exemple le pangolin, ajoute-t-elle. Plus d'un million de ces petits animaux ont été tués par les trafiquants en 10 ans pour vendre leur viande et leurs écailles qui servent à faire des bijoux. Et c'est le plus saisissant dans ce dossier du Figaro, à quel point ces trafics sont alimentés par une demande des plus futiles. Le journal prend l'exemple de la mode des félins de compagnie au Koweït, avec cette interview d'une jeune femme aisée, propriétaire de 2 guépards, qui confie qu'elle avait avant des chiens et des chats, mais qu'elle voulait quelque chose de plus gros, qu'elle a renoncé à un tigre parce que ça prend trop de place sur le canapé, pour se rabattre donc sur des guépards. On hésite entre le rire et les larmes. Elle explique aussi comment elle n'a eu aucun mal à soudoyer les douaniers de l'aéroport pour faire entrer les félins en toute illégalité. Pour conclure, la responsable d'ONG interrogée par le Figaro appelle à renforcer les sanctions qui ne sont pas, dit-elle, à la hauteur des réalités de ces trafics, tout en soulignant que cela prend beaucoup de temps et d'énergie.
Et à la une du Parisien ce matin, Lionel, un possible nouveau scandale en matière de santé.
La colère des malades de la thyroïde, titre le Parisien. Des malades qui se plaignent des effets secondaires d'un médicament, le Levothyrox, dont une nouvelle formule a récemment été mise sur le marché par le laboratoire Merck. Un patient interrogé par le Parisien parle de maux de tête, de nausées, de douleurs musculaires et même de perte de mémoire. L'Association française des malades de la thyroïde, interrogée elle aussi, réclame carrément de mettre fin à l'utilisation de ce médicament. C'est dans le Parisien, donc ce matin. Autre scandale bien établi, celui-là, celui des œufs au fipronil. C'est la Croix qui fait sa une ce matin sur, je cite, les leçons d'une crise. Et le quotidien revient sur toutes les questions que pose cette crise qui a traversé une partie de l'été. Rien de vraiment nouveau, mais si vous revenez de vacances et que vous n'avez rien lu, rien écouté et rien regardé sur le sujet, vous pouvez toujours vous remettre à la page, donc, avec la Croix. Pour prolonger l'un des autres sujets qui a fait les gros titres la semaine dernière, la polémique autour des statuts de généraux confédérés aux États-Unis. Libération se penche de son côté ce matin sur les statuts et monuments qui fâchent, non plus aux États-Unis mais en France. La France aussi a ses fantômes, titre le quotidien Libération, et dans son éditorial, Laurent Geoffrin fait le parallèle. Ce fut un talentueux général américain qui défendait un gouvernement esclavagiste. On déboulonne les statuts de Robert E. Lee un peu partout aux États-Unis. Ce fut un brillant général français dont le gouvernement rétablit l'esclavage en 1802, mais personne ne songe à déboulonner les statuts de Napoléon Bonaparte. Voilà qui fera hurler les nombreux admirateurs de l'empereur. Libération dresse par ailleurs un inventaire des statuts ou rues dédiées dans nos villes à des esclavagistes avérés moins célèbres que Napoléon. Et un militant associatif interrogé par Libé plaide non pas pour les déboulonner, mais pour leur adjoindre des plaques explicatives.
Il est 8h34, les diverses réformes du gouvernement font la une des journaux. Encore ce matin, Lionel, le Figaro se penche sur celle de l'impôt sur les grandes fortunes.
Pour détailler ce qui va changer pour cet impôt emblématique, à savoir que l'ISF ne devrait plus concerner que les biens immobiliers. Et dans son éditorial, Jacques-Olivier Martin déplore qu'Emmanuel Macron ne soit pas allé, je cite, « au bout de son excellente idée en supprimant entièrement l'ISF ». Les Échos détaillent pour leur part ce matin la réforme à venir de la CSG et le nouveau plan de l'exécutif concernant cette réforme. Le gain de pouvoir d'achat pour les salariés sera étalé dans le temps sur l'année 2018, croit savoir le quotidien économique. Mais la réforme qui fait toujours le plus la une ce matin, c'est celle du Code du travail, à la une de la Dépêche du Midi, du Midi Libre ou encore du Télégramme. Et le Canard enchaîné s'en amuse. Code du travail, que demandent les patrons ? Oh, juste quelques médéfications, titre l'hebdo satirique. Tandis que dans l'Humanité, Pierre Chaillant fustige ce qu'il considère comme la menace d'un nivellement par le bas du droit du travail sans précédent en France et en Europe. Sous couvert de dialogue social, la machiavélique philosophie des ordonnances est de faire reculer les droits des salariés et leur sécurité d'emploi pour donner la plus grande liberté aux chefs d'entreprise et la garantie de dividendes supplémentaires aux actionnaires, ajoute l'éditorialiste de l'UMA.
Les éditorialistes qui s'amusent aussi, Lionel, de la réapparition de François Hollande.
Oui, l'ancien président qui a profité de sa présence au Festival du film d'Angoulême hier et des journalistes qui étaient là pour lancer l'air de rien une petite pique à Emmanuel Macron sur la réforme du Code du travail. Coucou, le revoilà, s'amuse Patrice Chabanet dans le journal de la Haute-Marne. Avant de souligner que si ce n'est pas un scud dirigé vers son successeur, cela y ressemble beaucoup. La République des Pyrénées note de son côté que François Hollande n'a pas attendu beaucoup plus longtemps que Nicolas Sarkozy pour livrer une vachardise sur l'action de son successeur, en rappelant que dès l'été 2012, après sa défaite à l'élection présidentielle, Sarkozy était intervenu, lui, sur la Syrie. Dans le journal L'Opinion, Jean-Jérôme Bertolus s'interroge d'ailleurs. François Hollande se condamne-t-il à devenir le Sarkozy d'Emmanuel Macron, en soupçonnant des velléités de retour rapide de François Hollande en politique? Pour conclure, la mésaventure politique de Nicolas Sarkozy a pourtant démontré, s'il le fallait, que l'histoire ne repasse pas les plats. Et puis pour finir sur une note plus sportive, un mot de la défaite cruelle hier de l'équipe féminine de rugby en Coupe du Monde contre l'Angleterre. Défaite évoquée par de nombreux journaux avec ce titre dans l'équipe, de la pluie et des larmes. Mais le quotidien sportif reconnaît, beaux joueurs, qu'il n'y a pas que la météo qui a été fatale aux joueuses françaises, mais aussi un manque d'adaptation de leur jeu à ces conditions automnales, précisons que ça se déroulait en Irlande, et un plus grand réalisme des Anglaises. C'était la 7e fois que les Françaises échouaient en demi-finale de cette Coupe du Monde. Peut-être que la prochaine fois sera la bonne.
Merci Lionel Thompson. Dans quelques instants, on retrouve notre invité Fethi Benslama. Toutes vos questions au 01 45 24 7000. N'hésitez pas à nous appeler et à intervenir.